Chapitre 63. Le cœur brisé, Norcross supervisait l'évacuation de Renda sur Bay. L'idée d'abandonner leur foyer avait d'abord indigné les habitants, mais la volonté de le défendre s'était vite dissipée face à la cruelle réalité. Si unis qu'ils soient, ils ne pourraient rien face aux hordes de Soudardoutros.
Ça ne veut pas dire que nous abandonnons,
avait insisté Nathan lors d'une autre réunion.
Mais même si chaque défenseur tuait 100 ennemis, Outros aurait encore assez d'hommes pour réduire Renda sur Bay en cendres. Cela dit, nous trouverons un moyen de lui nuire.
Moi, je dois garantir la sécurité de mes administrés,
avait dit Thaddeus.
Si les voiliers et les bateaux de pêche ne suffisent pas, les collines seront un bon refuge. Il faut sortir de là tous ces braves gens.
Escorté par des soldats d'Aran, Norcross arpentait les rues et frappait à toutes les portes. Partout, des héros ordonnaient aux gens de prendre des vivres et de ficher le camp. Quand Outros arriverait, ce serait pour entrer dans une ville fantôme où il ne trouverait plus un grain de blé. Sur les quais, des hommes et des femmes attendaient d'embarquer. Accrochés aux jupes de leur mère, des gamins chouinaient, totalement déconcertés. Un tout petit nombre souriait comme si c'était le début d'une grande aventure. Pour faire plus de place sur le Bégonia, Kenneth avait jeté par-dessus bord les caisses, les barils et les outils. Chargé jusqu'à la gueule, le petit bateau s'enfonçait trop dans l'eau au goût de son propriétaire.
« Je ne peux plus prendre personne !»
dit-il en retirant la passerelle d'embarquement.
« Il y a d'autres bateaux !»
Même si l'armée d'Outros n'était plus qu'un jour de marche, selon les éclaireurs, les habitants gardaient leur calme. Alors que le Bégonia appareillait, ils attendirent patiemment que d'autres bateaux viennent les chercher. Une fois au large, Kenneth mit le cap sur le nord. Tout aussi chargé, 10 autres petits navires le suivirent. Tirant 2 chèvres derrière elle, une femme mit un pied sur la passerelle d'embarquement d'un bateau.
« Vous ne pouvez pas monter à bord avec des animaux !»
lui lança le propriétaire.
« Nous n'avons pas de place. La priorité, c'est de sauver les gens. »«
Mais Chou et Lou sont des gens !»
La femme passa un bras autour de l'encolure de chaque chèvre.
« Ce sont mes enfants, pas question de les abandonner !»
Les passagers déjà sur le pont réagirent.
« Lèche-les, Max. L'ennemi approche.
« Je sais, et ces monstres dévoreront mes petites !»
Conscient que ça risquait de mal tourner, Norcross intervint.
« Partez dans les collines avec vos chèvres et cachez-vous bien »
conseilla-t-il.
« Une fois à l'abri, relâchez vos petites et elles ne risqueront rien si vous êtes assez loin des Soudards. Après, vous pourrez rester avec elles ou revenir ici pour embarquer. Nous n'avons pas assez de place pour emmener du bétail. »
Les chèvres bêlèrent tristement, troublant le capitaine.
« Mignon ou pas, ça ne change rien !»
La vieille Max partit sans insister, entraînant ses chèvres vers la liberté ou la mort. Utilisant leur barque, des pêcheurs faisaient la navette entre les quais et les 3 bâtiments militaires. L'évacuation terminée, Norcross rejoindrait le général Zimmer et Thaddeus, déjà à bord du vaisseau amiral du capitaine Mills. Ambre l'accompagnerait, ainsi que les sœurs Rhoda et Eldine. Avec Nathan, Auron et les autres détenteurs du don, les Sœurs de la Lumière préparaient de sacrées surprises pour les hommes d'Outros.
« Nous avons été séparés trop longtemps, »
dit Ambre à son frère.
« Je ne veux plus te quitter. »«
Tu m'as manqué aussi. Quand nous serons à bord, nous aurons tout le temps de parler, mais là, il reste encore beaucoup de monde à évacuer. »«
Je t'aiderai dans la mesure de mes moyens, »
fit Ambre.
« La Dame Abbesse s'est montrée très patiente quand elle m'apprenait à utiliser mon don. Elle m'a enseigné des choses stupéfiantes. »
Elle se détourna pour cacher sa tristesse.
« Elle me manque beaucoup. Elle était si gentille et si sage.
Elle a eu une belle mort.
Oui, mais belle ou pas, c'était une mort. J'aimerais qu'elle soit encore avec nous. »
Rouge d'avoir couru, Lila et Bannon débouchèrent sur les quais.
« Quelle famille de casse-pieds !»
s'écria le jeune escrimeur très énervé.
« Qu'est-ce qu'il compte faire, jeter des marmites à la tête des soldats ?»
Lila semblait elle aussi très contrariée.
« C'est une boutique de poterie, pas une mine d'or. Mais on n'a pas pu les convaincre de partir. »
Elle foudroya Bannon du regard.
« Et tu as refusé de me laisser les assommer et les porter jusqu'ici ?»
Norcross soupira. Beaucoup de familles voulaient rester, il le savait.
« Ce n'est pas une mine d'or, » dit-il, « mais c'est leur foyer. J'espère qu'ils seront assez malins pour filer quand les soldats seront en vue. »
Une heure plus tard, les derniers bateaux de pêche levèrent l'ancre. Les voiliers pleins à craquer, car il fallait compter avec les soldats et leurs montures, Lila et Bannon sautèrent dans un canot pour rejoindre le navire amiral.
« Si on compare avec notre coquille de noix, » fit la Morassite, « il y a du mieux. »
Norcross et Ambre ne partirent pas tout de suite au cas où il y aurait des retardataires. Déboulant d'une rue, Thorn et Lies vinrent au rapport.
« Les premiers soudards sont à moins d'une heure d'ici. »«
On en a tué quatre avant de filer, » dit Lies.
« Je crois que ça ne les ralentira pas beaucoup. Ils sont plus méfiants, je trouve. »
« Nathan nous a ordonné de ne plus combattre, »
ajouta Thorn, l'air dégoûté.
« Il ne veut pas nous mettre en danger. Je me demande bien pourquoi. »
« Auron, Olgia et Perry l'ont soutenu, »
précisa Lies tout aussi dépité.
« Comme ce sont les derniers sorciers d'Ildakar, nous devons leur obéir. Ils veulent que nous partions. »
Les deux Morassites regardèrent le canot qui approchait, propulsé par deux solides rameurs.
« Nous avons tous des ordres à exécuter. »
dit Norcross. Dans son dos, Renda Surbay était vide.
« Il reste assez de bateaux pour Nathan et les autres. En auront-ils bientôt terminé ?»«
Qui peut savoir avec les sorciers ?»
répondit Lies mutine. Elle sauta dans le canot et Thorn l'imita. Norcross et Ambre embarquèrent avec les deux guerrières. À part Nathan et son groupe, il ne restait plus personne à évacuer. Les rameurs étant épuisés après plusieurs allers et retours, Thorn et Lies leur firent signe de s'écarter.
« Vous êtes crevés, laissez-nous ramer !»
Surpris, les deux costauds obéirent. Avec leur énergie habituelle, les Morassites propulsèrent le canot en direction du voilier amiral. En passant devant les grandes tours de garde à l'entrée de la baie, Norcross eut un pincement au cœur. Les catapultes étaient alignées derrière, prêtes à écrabouiller les galères. Tant de travail pour rien.
Les Norokai auraient rudement dérouillé. Mais nous n'avons pas eu notre chance.
Au contraire, fit Ambre, nous avons une chance de survivre.
Quand le canot eut atteint le voilier, Norcross et les autres grimpèrent sur le pont bondé de soldats d'Aran et de réfugiés. À la poupe, une main en visière, le capitaine Mills semblait très inquiet. Norcross se retourna pour contempler les bâtiments qu'une horde de soudards dévasterait bientôt. Si Nathan et les autres ne se montraient pas très vite. Dans le nid de pie, la vigie sondait large avec sa longue vue.
« Capitaine, observation confirmée! Confirmée !»
Mills fit sonner la cloche fixée à côté du gouvernail.
« Que tout le monde se prépare! Ennemi en vue !»
Se tournant vers l'océan, Norcross vit lui aussi les galères aux voiles bleues foncées qui approchaient. Passant de bâtiment en bâtiment, Nathan dessinait des formes de sortilèges sur des façades, lançait des toiles de protection et ajoutait des points d'ancrage. Si Verna avait été là pour l'aider, ou Elsa avec sa magie de transfert, il n'aurait pas dit non.
« Esprit bien-aimé, en principe je n'utilise pas mon don pour détruire, sauf quand j'y suis absolument obligé. »
« Et là, c'est justement le cas !»
lança Perry. Moins puissante que le défunt Léo, c'était une modeleuse capable d'agir sur le bois et la pierre. Avec ses doigts, elle gravait des formes de sortilèges sur les murs et les portes des bâtiments. Pour l'imiter, Nathan aurait dû utiliser la pointe de son couteau. Auron et Olgia étaient chargés de semer une multitude de chausse-trappes. Avec de la peinture, Auron traçait des runes qui reliaient les rues, composant ce qui semblait être un fouillis dépourvu de sens. En réalité, c'était un piège qui se déclencherait lorsque les soldats, sans le vouloir, activeraient les petits constructs cachés dans les entrées des plus grands bâtiments, provoquant la disruption d'étoiles jusque-là interconnectées. Olgia, elle, plaçait des collets magiques à travers les rues et devant toutes les boutiques alimentaires qui attiraient immanquablement des soldats affamés. Bien qu'impressionné à l'idée de préparer une formidable explosion de magie, Nathan avait conscience que ce n'était rien comparé au sort de fusion de Verna, si complexe qu'il lui avait échappé se retournant contre elle. Là, c'était de la magie simple, claire et sans danger pour ceux qui la maniaient. Nathan avait cartographié les rues de Renda Surbay et choisi les cibles. Tandis qu'il exposait sa stratégie, ses collègues l'écoutaient attentivement.
« Il faut que les premiers rangs ne se doutent de rien. Si la magie se déchaîne trop tôt, ce sera un coup d'épée dans l'eau. « Tant qu'il y a des morts, »
objecta Auron,
« je me fiche des détails. »«
Certes, »
convint Sœur Charon.
« Mais les pertes seront bien plus lourdes si nous laissons l'ennemi gagner la place principale. Avec son sortilège, la dame abbesse a fait un carnage. Essayons d'être à sa hauteur. »«
Outros risque d'être plus prudent, » rappela Nathan. « Le plus important, c'est d'empêcher les soudards de se ravitailler. Ces soldats sont presque des morts qui marchent. Bientôt la faim aura raison d'eux. J'aimerais mieux qu'ils brûlent vifs,
lâcha Auron. Dans la mairie, Nathan et Perry mirent la touche finale à leur plan. Devant les registres qui recensaient les victimes des Norukai, Nathan eut de nouveau le cœur serré.
Encore des archives qui disparaissent. Après un tel carnage, nous pardonnerons-nous un jour?
Tu aurais préféré préserver de vieux grimoires et laisser le monde à Outros?
Demanda Perry.
Sacrifier de vieux livres ne paraît pas un si grand drame si ça peut nous valoir la victoire.
C'est vrai. Et si je survis, je pourrai toujours écrire de nouveaux livres.
Perry finit de tracer une forme de sortilège sur les murs du bureau.
Voilà! Les lignes de magie sont connectées des tours de garde jusqu'aux fondations. Renda sur baie est vide, et le piège n'attend plus que l'ennemi. Il est temps de partir.
Oui, d'autant plus que les Soudars ne sont plus très loin.
Resplendissant dans sa tenue d'aventurier, Nathan sortit du bureau puis de la mairie.
On lève le camp, les amis. Direction le port.
Sur les quais, il ne restait plus personne, à part les canots qui attendaient les détenteurs du don. Au large, les trois voiliers lèveraient l'ancre dès que les saboteurs de Nathan les auraient rejoints. Encore à quelques centaines de pas de l'eau, le vieil homme jeta un coup d'œil derrière lui. Plus personne en vue. Tous les bâtiments déserts n'étaient les pièges qui attendaient leurs victimes. Venant du large, une clameur se fit entendre, puis une cloche sonna l'alarme.
« Que se passe-t-il ? »
demanda Perry.
Rien de bon,
répondit Auron. Dans les canaux, les marins firent signe aux fugitifs de se dépêcher. Une initiative judicieuse. Au large, une bonne centaine de voiles bleu foncé au minimum barraient l'horizon.